Voilà, c'est le début. Nous sommes maintenant en onde. C'est le temps d'une bière. À l'heure de commencer cette conversation, nous sommes au Festival des brasseurs et artisans de Québec, au magnifique domaine de Mazerais. Et le soleil a enfin décidé de pointer le bout de son nez derrière les nuages. Donc, on est inondé en ce moment de toutes sortes de beaux rayons qui nous passent à travers un ciel plein d'enthousiasme. Mais je suis en très bonne compagnie. Je suis avec deux comparses qui se retrouvent eux-mêmes pour la première fois depuis très longtemps. Je suis avec Luc, Nicole, Lajoie.
L'abri.
L'abri.
Si près.
C'est si près et pourtant si loin. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir de celle-là. Et je suis avec P.A. Morin.
Enchanté.
Donc, on a deux grands amateurs d'histoire avec nous. Luc, toi-même, tu es historien, tu es très impliqué aux plaines d'Abraham.
Ouais.
Tu fais des tours guidés aussi, je crois. Ouais. Et puis, ça, c'est juste peut-être la pointe de l'iceberg parce que tu es aussi en train de travailler sur un livre.
Oui, exact, c'est ça. On met les touches finales sur un livre sur l'histoire des brasseurs, justement. Pas tant de la bière comme breuvage social ou de la... Je vais dire, même, c'est pas une histoire de la production, de la fabrication de la bière. C'est vraiment une histoire des brasseurs. Donc, qui c'étaient les gens qui ont brassé de la bière dans la vallée du Saint-Laurent, là, je dirais, entre la Nouvelle-France, de la Nouvelle-France jusqu'au milieu du 20e siècle, grosso modo, là, qui est une période assez charnière où, en fait, il y a des développements dans l'industrie brassicole. Donc, je touche à ça. Oui, c'est un sujet, en fait. J'ai commencé, pour te donner une idée, Pierre, j'ai fait mon premier tour sur l'histoire des brasseurs à Québec, une visite à pied en 2002.
2002,
donc,
okay.
Ça fait au-dessus de 20 ans là, que c'est un sujet auquel j'ai touché d'abord puis dans lequel je suis plongé un peu plus vigoureusement, je vais dire, depuis quelques années.
T'as dû en user des souliers depuis ce temps-là?
J'en ai usé des souliers depuis ce temps-là.
Mais on a pas accumulé du matériel aussi.
Oui, exact. Du beau matériel, des belles rencontres au fil du temps. T'sais, en plus, le livre, c'est le fruit, en fait, au départ d'une conférence. Donc, c'est une conférence qui a roulé un peu depuis quelques années aussi, durant cette conférence-là. C'est vraiment quelque chose qui intéresse les gens. Puis, en plus, c'est le fun parce que quand on tombe sur l'histoire de la bière, je dirais que la majorité des amateurs de bière se sont pas nécessairement penchés sur d'où viennent la bière qu'ils ont bu. On a même les gens qui sont des grands amateurs de bière avec l'industrie, je vais l'appeler comme ça, mais en fait, la scène des microbrasseries qui est foisonnante au Québec, qu'on a actuellement, on essaie des choses aujourd'hui, mais on se demande pas tout le temps est-ce qu'il y a une tradition, d'où est-ce que ça vient, est-ce qu'on brassait à ces endroits-là. Tu sais, on s'installe à des places, on brassait un peu partout au Québec, mais il y a des endroits qui étaient, je vais dire, des plaques tournantes de l'industrie brassicole. Donc, c'est vraiment de voir tout ça qui est vraiment trippant.
Ben justement, parlant de microbrasseries, de plaques tournantes et de gens qui essaient des nouvelles choses, il y a P.A. Morin qui est à côté de nous, qui est venu, lui, il s'est déplacé de Baie-Comeau, qui nous vient de la microbrasserie de Saint-Pancras.
Oui, voilà. Baie-Comeau n'est pas une plaque tournante. Ben, on a un certain sens. Au niveau régional, oui, effectivement. Oui, on va en faire référence.
Il vient d'avoir un changement de paradigme ici.
Ah, intéressant. Mais, ben oui, enchanté. Puis, c'est ça, le moment super heureux. C'est vraiment une rencontre fortuite, ou en tout cas non prévue. Mais c'est ça, dans le fond, Luc, on s'est connus à la Commission des champs de bataille nationaux, justement.
Ouais.
Donc, j'ai aussi, suite à mes études en histoire, dans le fond, on a été guide animateur ensemble. Ouais. Puis, c'est ça, on avait déjà travaillé là, sur différents trucs. Donc, mon Dieu, presque 15 ans plus tard, on se retrouve.
Plus de 15 ans plus tard.
Ça fait 14 ans que je suis sur la Côte-Nord. Donc, regarde, ça ressemblait à ça.
Oui, c'est ça. Ça fait c'est un beau moment. Donc, des belles retrouvailles. Merci, Pierre, cet après-midi.
Le temps d'une bière, ça sert à ça, ni plus ni moins. Dans le temps, est-ce que tous les deux, vous vous intéressiez déjà à l'histoire de la bière, à l'histoire de l'alcool ou à l'histoire, disons, de la diète ou de l'histoire sociale des gens?
Ben, de mon côté, mon Dieu, je me rappelle encore à l'âge de 12 ans, cadeau de fête, j'ai demandé à mes parents, c'était un six-pack. Okay, ils m'ont acheté un six-pack de la Bat 0.5. T'sais, ils ont été bons. Mais après ça, même après ça, je me rappelle à 13-14 ans, des livres sur l'histoire de la bière. Juste l'iconographie m'interpellait vraiment comme jeune. Là. Comment une étiquette était faite, c'est quoi la composition, quels sont les exemples au niveau ton commercialisation, mise en marché, qu'un enfant de 13-14 ans ne s'intéresse pas à la mise en marché. Mais je trouvais intéressant comment c'était communiqué, le breuvage. Je trouvais vraiment qu'il y avait quelque chose qui était particulier puis différent d'une pizza pochette, mettons, là, tu sais, où on comprend. Je voyais qu'il y avait un univers qui était vraiment unique. Je ne veux pas dire propre, mais voilà. Donc, tant les aspects publicités, ces affaires-là, j'avais un intérêt vraiment marqué tôt. Donc, c'est un peu une continuité plus qu'une rupture là, dans ce cas-là.
C'est le fun ce que tu dis, Pierre-Antoine, parce que c'est vrai qu'il y a une... que quand tu connais pas ça, mais que tu commences à t'intéresser à la bière, il y a une sorte de mystique autour de ça. Tu vois, il y a des symboles, il y a des... Comment je dirais ça? Tu sais, c'est ça, il y a des symboles, il y a des codes que la première fois que tu sais... Tu sais, tu comprends pas nécessairement.
Oui, mais c'est intéressant, puis je le rencontre, de te souvenir, juste quand tu parles de code, juste des rencontres familiales, que là, tu arrives, puis là, tu comprends qu'il y a deux gangs. Puis là, derrière la gang, il y a Canadien Nordique. Là, tu sais, moi, j'étais un enfant de 82. Puis derrière ça, ben, il y a Molson. Puis là, ben, à l'époque, là, c'était brasserie OK. Puis là, c'est-tu baseball ou hockey? Ben là, ça, c'est la bat tout le monde. Fait que là, déjà, il y a des positionnements, il y a de l'identité assez tôt qui se passe. Ouais, voilà. Donc, tu sais, déjà, puis je me sentais très observateur. Donc, c'est plus l'intérêt. Puis, clairement pas acteur durant la jeunesse, là. Mais c'est ça. Donc, il y a autre chose, puis ça vient interpeller. Puis des fois, il y a une phase émotive qui est. Il y a une composante émotive qui est particulièrement. Je trouvais pas ça du liquide à lessive, là, mettons. Là. Donc, voilà, c'est vraiment en propre au milieu. Là.
Tu me renvoies dans plusieurs questions que je veux te poser, mais ma question principale, c'est est-ce que vous voyez pas un peu la bière de microbrasserie au Québec comme étant une nouvelle identité nationale ou comme étant une nouvelle portion importante des identités québécoises?
Ben. Je vais me permettre un début de réponse en revenant en arrière.
Je savais que tu allais dire ça. Je savais qu'on allait retourner en histoire.
ça revient, hein, parce que, tu sais, la bière pour moi et l'industrie brassicole, quand je me suis mis à m'intéresser à ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un beau baromètre de... comment je dirais? De comment s'est développé l'ensemble de... l'économie ou en fait des entreprises au Québec. Tu sais, en Nouvelle-France, on a un essai de grosse brasserie, puis ben c'était un peu comment la colonie était vue, c'est-à-dire comme une colonie où essentiellement on venait extirper des ressources naturelles.
Ouais.
Donc les grandes entreprises fonctionnaient plus ou moins, on venait sortir des ressources d'ici puis des produits transformés, c'est pas ça qui fonctionnait. Mm-hmm. C'est au 19e siècle que les brasseries se sont vraiment, je vais dire, installées ici et elles sont devenues des industries très en santé en même temps que l'industrie at large se développait au Québec aussi puis dans la vallée du Saint-Laurent. Et aujourd'hui, face à un marché de la bière qui s'est internationalisé, mais aussi consolidé dans la deuxième moitié du 20e siècle, alors que des grands groupes internationaux là, ont acheté les joueurs principaux, ben, on se retrouve encore une fois avec cette volonté, depuis une trentaine d'années au Québec, de retrouver une sorte d'indépendance. On essaie de ressortir les produits locaux. Tu sais, en agroalimentaire, il y a le discours, je pense que c'est dans les 30 dernières années aussi qu'on se réapproprie. Tu sais, là, je m'avance un petit peu, mais dans ce que je sens, dans les observations que j'ai pu faire parallèles, on se réapproprie, par exemple, la fierté d'avoir fait la poutine au Québec. Mm-hmm. Les gens se réapproprient ça puis veulent redonner les lettres de noblesse à une chose comme ça. Donc, on régionalise, on se réapproprie ça. Et cette éclosion des microbrasseries qu'on a depuis une trentaine d'années, pour moi, c'est un peu, encore une fois, le baromètre de cette volonté de se réapproprier ce pan-là de notre économie.
Je rattache ça au nationalisme québécois. Moins d'indépendance nationale, plus d'indépendance locale. La microbrasserie comme la place où est-ce que la localité parle d'elle-même à travers sa région administrative, à travers le Québec.
Ben, le parallèle que je peux faire, peut-être un peu différent, peut-être dans un avenir plus proche, on va y aller comme ça. Je regarde chez nous à Baie-Comeau, c'est notre 10e anniversaire. Donc, on va fêter là, le 25 août prochain nos 10 ans. Puis un des points qui ressort souvent, c'est une dimension de... Moi, j'en ai pris conscience lors de notre 5e anniversaire. C'est pas de la bière que vous nous amenez dans la région, dans le milieu de la Baie-Comeau, la région de la Minocouaga ou même la Côte-Nord plus large, c'est de la fierté. Donc, là, on peut y aller dans les mondes, vont dire, dans les années 80-90, là, habitant en région, t'étais... Donnez-moi les guillemets, là, je vais sortir bien gros. T'étais loser, tu voulais retourner, puis la vraie vie se passait dans les centres. Puis là, peut-être qu'on a contribué au niveau local, mais il y a aussi, je pense, une tendance plus large en disant, une vie qui est différente, plus proche des milieux naturels, quoi que ce soit, est intéressante. Donc, Là, il y a un genre de, désolé l'anglicisme, un genre de push-pull en même temps. Donc, ouais. Tu sais, on nourrit ça, les gens sont... Puis, alors que... Moi, je me rappelle encore, tu sais, quand j'ai commencé les études, j'avais des super bons amis, puis ils disaient, « Ouais, je viens de Robertval, mais je veux pas que ça sache. » les gens voulaient pas que ça sache dans le programme qui venait de la région. Je veux pas passer pour un Hillbillies ou pour un truc. À cette heure qu'aujourd'hui, je vois des groupes, des trucs comme ça, puis les gens sont hyper fiers de dire que je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, je viens de la Gaspésie, donc il y a une... Il y a une fierté, il y a une identité régionale qui s'est vraiment transformée, tu sais, que j'ai pu voir là, de mon truc, versus avant, c'est une tare, puis vite, il faut que j'aille de l'air d'un urbain. Alors que maintenant, ben, il y a moyen que d'en avoir une fierté sans que ça devienne, sans être trop chauvin non plus. Là. Donc, il y a un placement que c'est là-dessus. À quelque part, les microbrasseries participent, mais aussi en font partie. Fait que, tu sais, là, il y a pas qu'il y en a un qui tire l'autre, là, mais il y a quelque chose de concomitant là-dedans. Ouais. Là. Donc, nous, c'est quelque chose que je peux observer, puis je pense auquel là, qu'on peut voir sur notre territoire. Et, ouais, voilà. Donc,
Luc, il est bien d'accord avec ça.
Oui, absolument. Je pense que c'est une très bonne façon de le voir. En effet, là, cette réappropriation-là du, t'sais, dans le cliché là, du terroir là, qui est passé un peu par là. Puis je pense que c'est une très belle expression. La richesse de cette industrie brassicole-là est une très belle expression de cette réappropriation-là.
Bien, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle, qui est évidemment celle d'un gars qui est prêt à voyager à Québec pour rencontrer des gens, pour faire des entrevues, pour parler de la bière. Mais en même temps, je suis un touriste. Je veux dire, quand je voyage dans une autre ville, la première chose que je me pose comme question, c'est quoi les microbrasseries? Fait que là, je me dis, peut-être que c'est bon du point de vue du tourisme, puis que c'est aussi la microbrasserie un nouveau vecteur de croissance économique dans les localités, dans un contexte où est-ce que les gens, ben souvent, le problème, c'est qu'ils quittent les petites places pour aller dans les grosses places. Là, je pense qu'on voit avec COVID, avec l'inflation, surtout avec le mode de travail hybride, que les gens ont quitté les grandes villes un petit peu plus que d'habitude, puis ont renforcé la tendance. Et là, je me dis, ben tu as plus de monde qui s'en vont dans les coins, disons, un peu plus éloignés. Puis, ils semblent avoir en même temps plus de fierté pour, les villes moins grandes. Pour faire du commerce local, pour faire des choses qui viennent de chez eux, puis l'afficher.
Ben, honnêtement, j'ai pas nécessairement vu les derniers, les plus récents chiffres des bilans migratoires interrégionaux, mais du moins, on sent que ça fait davantage partie du domaine du possible. Mm-hmm. Donc, c'est plus que la marche ou la friction de l'espace s'en trouve quand même réduite. Grosso modo, là, si on peut essayer pas dire de résumer, là, mais de la tendance, c'est pas hors norme, c'est pas exceptionnel. Ça devient quelque chose qui est un peu plus, pas tant si fréquent que ça, mais qu'il y a une normalisation à ce niveau-là.
Luc, tu es au courant que ton ami PA, il met beaucoup d'histoires dans ses bières. Ben oui. On a fait deux petits épisodes dans lesquels on parlait un peu de ce qui se passait à Baie-Comeau. Puis je me souviens, Luc, PA, que tu m'as fait le portrait d'une espèce de montagne qui est comme une espèce de haut plateau. Puis c'est très bizarre comme sentiment quand tu arrives là-bas. C'est dans le coin de Baie-Comeau. Une fois que tu arrives là, tu es comme un peu seul, il n'y a pas de sentier. C'est dans une terre hors des sentiers battus.
Dans le coin à 360 km près, là.
dépendant. Banlieue immédiate.
Ouais, c'est
pas tant de l'ignorance que de l'optimisme.
La cour arrière. Mais...
c'est où déjà?
Mais dans le fond, c'est ce qui est appelé, là, désigné les Monts Grous ou en Innu Wapishka. Ouais. Voilà. Donc, dans le fond, qui se trouve à la hauteur là, du réservoir de Manic 5. Mm-hmm. Donc, c'est ça, le plateau montagneux. Là, certains sentiers d'approche, puis qu'on arrive sur les... Je peux pas dire les sommets, là, parce que on retournera pas à l'époque de la glaciation, là, mais je pense que l'histoire humaine nous intéresse plus que l'histoire géologique. Là. Donc, ça pour dire que... Oui, c'est ça. Donc, c'est cette période-là. Donc, si on vous entend en parler, Montgrou, donc c'est à ça qu'on fait référence là, par Wapishka. Mm-hmm.
Moi, je pensais à ça parce que je pense qu'il y a une fleur qui pousse sur ces plateaux-là dans lequel... une fleur qui pousse dans cet endroit que vous mettez dans une de vos bières, correct?
Oui, effectivement. Dans les Montgrous, on peut retrouver de la chicoutée. Mm-hmm. Mais on peut en retrouver aussi plus à l'est, là, d'exemple, dans Mangani, dans le secteur à partir d'Off-Saint-Pierre, ou en tout cas, on va dire Mangani, là... à partir de Sheldrake là, en allant vers l'est. Donc, la Chicoutée, qui est un petit fruit vraiment emblématique de la Côte-Nord. Super intéressant, l'histoire que ça, le, tant, c'est le fun en lisant là-dessus. On réalise que le frère Marie-Victorin en est impliqué dans la nomination. L'implication aussi, comment les Inuits nommaient le fruit et tout ça. Donc, ouais, ça, donc la bière, on l'utilise dans le fond, la fleur de chicouté. C'est pas de la chicouté qu'on utilise dans le fond dans ce fruit-là directement. C'est de la tisane de chicouté, donc les feuilles, les branches.
Okay.
C'est ça qui est mis dans la bière qu'on nomme la fleur de feu. Et c'est intéressant parce que le mot chicouté, dans le fond, c'est une francisation qui a été faite, comme je disais tantôt, par Marie-Victorin. Dans le fond, les Inuits nomment le fruit la chichkuta. Désolé pour les collègues Inuits qui peuvent nous écouter. Là, je ne suis pas tout à fait au point au niveau des accents. Mais dans le fond, chichkuta veut dire fleur de feu. Donc, dans le fond, notre point, nous, était juste de reprendre, franciser plutôt redonner, dans le fond, le nom complet versus chicouté, qui est un peu de contraction là, de certaines syllabes, ou en tout cas là, une façon phonétique là, de retravailler le terme original. Là, voilà. Donc, c'est une façon pour nous de voyager puis de remettre en valeur certains volets, là, dans le fond, du territoire, tout simplement.
Il y a une de vos bières aussi qui représente un peu les cageux, ou en tout cas l'industrie du bois. Je pense que tu m'avais déjà parlé d'une espèce de grande machine qu'on construisait pour faire passer le bois d'une hauteur à une autre.
Oui, ben, dans le fond, tu fais référence à la flume.
C'est quoi déjà la flume?
La flume, dans le fond, en français, on va nommer arboriduc. Donc, imaginez un aqueduc à arbre. Donc, vous avez du bois en bio là, qui est coupé là, plus en amont sur les bassins versants, qui est descendu par de la draft. Puis, à un moment donné, il y a des estacades qui sont construites. Et là, dans le fond, en anglais, jack ladder, là, donc une espèce de grande échelle qui fait que les bio. Puis après ça, descendre, je pense qu'ils l'ont démonté à Montréal, mais la fameuse pitoune. On parle des manèges. Donc, dans le fond, on se demandait pourquoi, moi, à l'âge de 8 ans, j'étais comme dans une espèce d'affaire en plastique, fibre de verre, à faire des splashs en plein milieu de l'île Notre-Dame. Ben, finalement, c'est parce que c'est des manèges qu'ils voulaient recréer cette espèce d'arboriduc-là, là, si on veut. Donc, sur la Côte-Nord, il y en avait peut-être une demi-douzaine dans différents villages ou opérations forestières. Donc, tu sais, la flume, il fait une de nos bières, dans le fond, qui y fait référence. Puis, si vous voulez savoir vraiment à quoi ça ressemble, parce qu'on peut envoyer des photos, des choses comme ça, rendez-vous à Forestville. Il y a pratiquement un kilomètre de flume là, qui a été original, là, qui a été préservé. Donc, c'est une façon un peu de montrer à quoi la structure peut avoir de l'air. Donc, c'était vraiment immense là, comme ingénierie, tout ça à mettre en place pour sortir du bois du territoire. On fait une référence tantôt à Luc. Donc, c'est toujours la même dynamique. Hein? Ouais. Prendre des ressources, gratter ça tant qu'on peut, puis les ressortir. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit clairement dans la longue durée.
Ah oui, tu sais. Puis c'est intéressant parce qu'en même temps, il y a tellement, tu sais, tout est dans tout. Tant qu'à faire cliché, tu sais.
La compétition à celui qui fait le plus de clichés est lancée.
Ben, en tout cas, il me semble que j'en ai deux, je dirais, à date. Mais j'essaie de prendre une longueur d'avance.
C'est correct.
Cette industrie-là aussi, et la bière, ça a été une industrie qui, au Québec, c'est le fun qu'on se réapproprie ces symboles régionaux-là, en plus, avec la microbrasserie aujourd'hui. C'est le fun qu'on se réapproprie ça parce que, un peu à l'inverse, l'industrie de la bière, en fait, ça a été longtemps une industrie quasiment d'appoint pour les entrepreneurs hein, qui étaient là-dedans.
D'appoint? Secondaire.
Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une majorité des brasseurs qu'on a eu. Je veux dire, dans les premières années du brassage industriel, là, on se met à la toute fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle, la majorité des brasseurs n'étaient pas à la base des brasseurs. C'était pas des gens qui venaient ici brasser de la bière. C'était des gens qui voulaient faire du commerce, qui voulaient développer le commerce du bois, qui voulaient développer le commerce des grains, qui voulaient développer le commerce maritime, qui voulait développer de se faire un réseau commercial, faire de l'argent, dans le fond. Il était dans cette business-là avant d'être dans la business de faire de la bière.
Donc, dans le fond, j'en comprends, c'est que ça prenait un capital d'abord.
Ouais.
Pour pouvoir, donc dans le fond, c'est un ajout au capital et non pas ce qu'on peut voir aujourd'hui, un brasseur par passion, par intérêt. Il y a un marché disponible. Ouais. Par contre, ça prenait des ressources, même financière/matérielle pour être capable d'en arriver.
Tu sais, t'arrives là, puis l'industrie de la bière, encore une fois, se développe essentiellement au 19e siècle. Mm-hmm. À partir, je vais dire, du 19e siècle. Avant, la bière, c'est un breuvage privé. C'est un breuvage que tu fais à la maison, c'est un breuvage que tu consommes à la maison, puis il y a très peu
À travers tout l'Occident, d'ailleurs.
Exact, hein, c'est ça. C'était une chose du quotidien, c'était une chose du privé, et ça faisait partie, en fait, quasiment de la cuisine. Pendant très longtemps, c'est les femmes qui s'occupaient de faire ce brassage individuel ou en fait privé-là.
Qui était d'ailleurs un peu comme un aliment. C'était comme faire du pain. C'était la même chose. D'ailleurs, souvent, c'était le même équipement.
T'as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est un aliment qu'on avait, qu'on consommait, qu'on n'associait pas à l'aspect festif ou de rencontre qu'on peut avoir aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, au 19e siècle, on a nos grands capitalistes ou en fait proto-capitalistes de la vallée du Saint-Laurent.
Bourgeoisie en développement ou en tout cas bourgeoisie d'affaires. Là.
Exact. Donc, des gens qui arrivent de la Nouvelle-Angleterre, hein, pour beaucoup, qui eux autres, justement, ont soit de la famille, des contacts vers l'Angleterre ou vers la Nouvelle-Angleterre, donc vers ce qui va devenir les États-Unis à partir là, de la guerre d'indépendance. Et puis, ces gens-là, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de continuer leur réseau d'affaires. Donc, ce qu'ils vont arriver ici, ben, ils vont, par exemple, obtenir une terre ou acheter une terre sur cette terre-là.
On commence avec la terre.
C'est ça, ils vont faire pousser des choses. Puis là, ils se rendent compte que quand ils font pousser des choses, ben, qu'est-ce qui pousse bien ici? Des céréales. Fait qu'ils font bien pousser des céréales. Tu peux bien faire du pain tant que tu veux, mais à un moment donné, ton retour sur ton investissement est peut-être meilleur sur ta bière ou sur ton alcool. Tu vas peut-être pouvoir l'exporter plus.
C'est un produit un peu plus raffiné.
Oui, exactement. Il y a du travail. Tu peux charger plus pour ce produit-là.
Voilà.
Donc, ces gens-là vont se dire, parfait, je vais commencer. Je vais construire une brasserie. Je vais construire un entrepôt. Tu sais, à peu près le seul, parmi la première vague de brasseurs, à peu près la seule personne qui arrive ici pour brasser de la bière et qui dit, moi, ce que je vais faire, c'est être un brasseur, c'est notre ami Molson, John Molson à Montréal. Qui, lui, est un brasseur, vient d'une famille de brasseurs. Quand il arrive ici, il a 18 ans, et il s'installe à Montréal, donc comme brasseur, avec un partenaire. Son partenaire fait faillite, il s'en retourne. Il n'est pas pauvre, hein? John Molson, là, il n'arrive pas.
C'est
pas un pauvre fermier. Là,
ben, c'est ça, c'est le précieux capital dont on manquait tantôt. Là, tout d'un coup, quelqu'un arrive avec le mindset d'affaires et le capital.
Les connaissances. Il y a l'héritage familial.
Dans ce cas-là, lui,
alors que les autres devaient le ramasser, le récolte, l'acheter, l'acquérir.
Ouais. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est un exemple particulier dans notre industrie brassicole, parce que dès 1786, il devient propriétaire de sa brasserie. Et c'est lui, c'est un brasseur qui arrive avec de la machinerie d'Angleterre, qui l'a acheté avec l'argent de sa famille. Mmh. Et c'est vraiment comme brasseur qui vient s'installer. Mais c'est presque l'exception. Si tu prends tous les gens qui sont à Québec, que ce soit la famille McCallum, John Racy, que ce soit, on pourrait tous les nommer, là, puis les premiers, t'sais, grands, je vais dire, marchands de Québec qui ont essayé de mettre leurs doigts dans l'industrie brassicole, les Drummond, la famille Grant, la Thomas Ainslie, c'est tous des gens qui étaient des marchands avant d'être des brasseurs. Mm-hmm. Donc, mais ça fait partie de cette diversification-là. Donc, ça fait partie de cet héritage-là aussi, de savoir que la bière, à ce moment-là, n'était pas un produit qu'on exportait en tant que tel ou en fait qu'on venait produire ici pour produire de la bière. Tu sais, on faisait pas, à part Molson, encore une fois, au 19e siècle, là, au début du 19e siècle, on disait pas « Hey, moi, je vais aller devenir brasseur à Montréal ou brasseur à Québec. »
C'était pas une ambition qui existait.
Disons que c'était l'exception, beaucoup plus que la règle.
Ben, c'est ça. Donc, la bière était un produit de commodité parmi d'autres. Produits de commodité. Tu sais, il y a du bois, des trucs, un sac à clous, des vêtements, du textile, puis bon, mais j'ai de la bière au travers de plein d'autres choses. Il n'y a pas d'exception par rapport à d'autres types de commerce.
Question en deux volets, en fait, deux questions complètement différentes. Est-ce que la bière était vraiment... Peut-on dire aujourd'hui que la bière, à l'époque, était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui, ou serait-il plus juste de dire qu'en réalité, c'était plus une question de coût? Tu sais, les produits changent de coût relativement, disons, au salaire moyen avec les époques. Est-ce qu'une bière plutôt normale, commerciale à l'époque, aurait été beaucoup plus chère par rapport au revenu normal qu'aujourd'hui?
La réponse très simple, c'est non. Donc, on disait que la bière, surtout là, dans des périodes, quand on arrive dans les années 1830, 1840, 1850, dans des périodes de disette où la culture, par exemple, était moins facile, la culture des céréales, on disait que généralement, la bière revenait moins chère que le pain. Donc, on a eu...
T'as prouvé ça dans les archives?
C'est ce qu'on disait. Puis, je vais aller même plus loin que ça. On a des preuves physiques de tout ça. C'est-à-dire que dans les années 1800... Donc, on estimait qu'à Québec, par exemple, au milieu des années 1830, il y avait à peu près un débit de boisson pour 75 habitants. Ce qui est immense quand tu y penses, OK? Parce qu'on disait qu'à Londres, dans les mêmes années, c'était 1 pour 200. Donc, Là, on parle de 200 habitants. Là. On parle pas de 200 hommes qui sont les gens qui fréquentent ces débits de boissons publiques-là, généralement.
Tout le monde confondu.
Donc, tout le monde confondu.
Ça va être plus grand chez les hommes, là,
naturellement. Oui, c'est sûr. Donc, mais à Québec, 1 pour 75, c'est, je veux dire, c'est une proportion qui est démente. Donc, la réputation qu'on donnait à la bière, c'est-à-dire que, justement... Puis ça, c'est une réputation qui va rester longtemps. Hein, quand on étudie un peu, par exemple, les bières plus foncées, donc qui sont associées, par exemple, au Porter, si on pense au Stout aussi, qui sont des bières qui ont été développées à la base pour des clientèles qui étaient des travailleurs portuaires ou des travailleurs dans les grosses industries lourdes en Angleterre. Mm-hmm. Donc, c'était des boissons qui étaient nourrissantes pour ces gens-là aussi. Donc, la bière devenait un substitut. Donc, ça, c'est une première partie. C'était pas cher, mais il y a une question de goût aussi. Et en Nouvelle-France, donc là, je vais revenir parce que, bien sûr, ici, avant le régime anglais du 19e siècle, on a la Nouvelle-France. Ce n'était pas une boisson qui avait très bonne réputation. Donc, on ne consommait pas de bière en public beaucoup parce qu'on disait que la bière, contrairement au vin ou aux eaux de vie, la bière rapidement échauffait l'esprit, alors que tu pouvais t'enivrer ou, en fait, du moins, tu n'avais... ton caractère devenait... ou, en fait, ton tempérament devenait moins bouillant si tu t'enivrais avec du vin ou de l'eau de vie que si tu t'enivrais avec de la bière. Donc, le clergé, entre autres, au 17e siècle en France, on retrouve des sermons de prêtres qui disent que la bière, là, ça, là, puis c'était une façon, en fait, de condamner les classes les plus populaires qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter de vin ou d'eau de vie et qui, donc, se tournaient vers des alcools maison, donc souvent de la bière. Ça leur permettait de les regarder puis de leur pointer le doigt puis de dire « Vous êtes des pas gentils puis vous êtes des pas fins. » Donc, durant toute la Nouvelle-France, la bière n'est pas un breuvage très populaire.
Le fameux bouillon, c'est ça qui ramène aussi le volet social. C'est-à-dire que c'est le... Sans dire que tu bois pour être vu, mais jusqu'à quel point la pratique est acceptée par l'entourage, par les gens qui te voient de le faire. Je reviens, mettons, si on fait un lien encore avec tantôt, je parlais de l'iconographie ou quoi que ce soit. Ou même avec le volet que tu apportais tantôt, Pierre, encore une fois, on a un volet identitaire là-dedans. Qu'est-ce qui est socialement bien vu? Avec qui je me rapporte? Quel est mon clan, mon groupe, mon organisation? Avec qui je veux aspirer ou pas? En tout cas, vous voyez, là, c'est tous ces éléments-là qu'on voit qui ne sont pas nouveaux. Là, on parle des années 1700, là, on parle du début de la colonie. Puis ces questions-là, c'est pas ces questions-là, mais ces réalités-là le sont toujours de façon un peu... se présentent de façon différente, mais les éléments sont toujours présents. Là.
Je veux rebondir là-dessus. Il semble vraiment que les pubs et les tavernes en Nouvelle-France, jusqu'au début du 19e siècle, aient été souvent les quartiers généraux d'une profession ou d'un certain type de travail, à tel point que tu pouvais maintenant lier un endroit à une catégorie sociale. Donc, tu avais le pub sur telle rue à Québec pour les architectes, le pub pour les ingénieurs, la taverne pour les avocats, etc. Luc, est-ce que tu as observé ça toi aussi dans tes recherches?
Oui, ça va se trouver un peu. Souvent, c'est géographique, hein? Je vais dire plus encore que socio-économique, du moins, mais tu sais, en même temps, tout est encore une fois, sortez votre cloche, tout est dans tout. Mais
lui, tu peux pas le. Tu non, peux je pas
Il compte pas pour deux fois si je l'ai déjà.
C'est comme les fautes dans les dictées au secondaire. Okay. Tu peux pas faire.
T'as pas le droit
d'enlever deux points pour le.
Ok, pour la faute.
Ouais. C'est ça.
Bon, mais ce que je veux dire, c'est dans le fond, c'est qu'en effet, si tu installes une auberge, entre autres en Nouvelle-France, ou même si on va au début du régime britannique, là, dans les années 1810-1820, si tu as une auberge, à la limite du quartier, ou en fait près du Quai de la Reine, donc dans la ville de Québec, par exemple, ben c'est certain que cette auberge-là, près du Quai de la Reine, elle risque d'attirer des travailleurs, probablement des travailleurs portuaires. Ou sinon, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attirer les capitaines de bateaux ou des matelots. Et puis oui, en effet, il va y avoir des lieux qui vont devenir des symboles d'une affiliation X, Y, Z. Ça va... En même temps, si on prend la ville... Je vais parler... Étant donné que moi, les pubs, peut-être, c'est peut-être moins mon... Je vais dire, dans le mille de mon milieu de recherche... De mes intérêts de recherche. Ouais. Mais ce que je constate, c'est que durant tout le 19e siècle, cette tendance-là, en fait, va seulement juste s'exacerber quand on va rentrer dans une période, par exemple, dans les années 1860 ou 70, où il va y avoir des conflits je vais dire, appelons-les ethniques, notamment entre les Irlandais catholiques et les Canadiens français. Il va y avoir très clairement des pubs où ben, c'est un pub de Canadiens français, puis c'est pas un pub d'Irlandais. Donc,
ça se mélange pas, là.
Disons qu'il y a des années où ça se mélange pas beaucoup, mais il y a des années où ça se mélange plus.
Oui, c'est ça. Il faut pas oublier c'est des sociétés qui sont beaucoup plus, je veux dire, hiérarchisées ou stratifiées aussi. Ah ouais. Là, les strates sociales, les éléments d'ascendance, de mouvement de classe sont moins là. Là. Fait que, tu sais, faut pas se surprendre que les lieux sont davantage attirés ou on se retrouve entre gens de même, de même point de vue, de même opinion, de même réalité ultimement. Là. Donc, puis ouais, de même proximité. Il y a toujours le principe de c'est quand même bien juste à côté de la porte. La friction de l'espace, pour utiliser deux fois la même expression, elle existe aussi dans un milieu urbain, bien simple. Pourquoi? Parce que c'est à côté, tout simplement. Ouais. Faut pas chercher plus loin.
Ouais, ouais, ça crée des microcultures, ça crée littéralement des cultures. On a, je pense, la rue Saint-Joseph dans le Vieux-Québec, qui était en réalité le quartier des tanneurs. Donc, c'était des tanneurs qui étaient là. Ça ne veut pas dire que c'est des gens tannants, insérer ici le mauvais jeu de mots, mais ça me fait penser au moment où est-ce que se développe la Nouvelle-France. On est encore à une époque où, en France, ta géographie définit ton travail. Donc, il y a un quartier à Paris dans lequel on fait les boucheries. Et pas mal tout le monde là-bas est débouché. Ça sent ça sent les organes qu'on vide dans la rue, puis il n'y a pas d'égout. Non. Et puis il y a un quartier pour les textiles, etc. Puis pas mal tout le monde là-dedans. Si tu vis là, si tu nais là, probablement que tu vas devenir toi-même tu vas devenir un agent des textiles d'une façon ou d'une autre. C'est pas mal la même chose ici.
Tout à fait. Je pense que Pierre-Antoine l'a très bien démontré, puis l'a très bien expliqué. En effet, si c'est à côté de chez vous, tu partais pas. Si t'es en ville, t'étais dans une famille ouvrière, que la difficulté, justement, à certaines époques, là, au milieu du 19e siècle, vous allez avoir de la difficulté à même payer le loyer. Tu sais, je veux dire, parce qu'il y a des périodes où ça va être très difficile pour les familles, notamment ici à Québec. Ben, c'est certain que tu t'en iras pas pour le plaisir quitter dans une autre ville. C'est ce privilège-là des études, de la mobilité.
Le coût de la mobilité.
Oui, oui.
Le risque, du moins. Non?
Exact. C'est très élevé là, pour la majorité des familles. Donc, tu as tout à fait raison, Pierre, de le dire. Tu nais dans un quartier, il y a des grosses chances que tu travailles dans le quartier et que tu aies un emploi qui soit associé au quartier où tu es né.
Changement de direction dans la conversation. J'ai eu l'honneur de rencontrer Pierre Clermont, comme un peu le grand historien non officiel de la microbrasserie. Il y a une époque où est-ce que dans son sous-sol, il y avait la plus grande collection au Québec des bouteilles de brasserie et de microbrasserie. Il pouvait te donner 8 éditions de la même brasserie qui existait il y a 50 ans. Et puis, je suis venu chez lui, il m'a montré un cahier, un registre qu'il y a. Et ça, c'est le registre des brasseries enregistrées au milieu du 19e siècle dans la province par ville. J'ai feuilleté ça rapidement. Quelle ne fut pas ma surprise, ou presque, lorsque j'ai trouvé que les deux tiers des noms de propriétaires dans les brasseries, c'était des noms anglais et ou écossais. Et là, moi, je regarde ça avec mon regard d'historien amateur, je me dis, OK, c'est les Anglais qui aiment la bière, c'est pas les Français. Après ça, je me dis, ouais, mais attends, c'est peut-être pas juste une question de goût, c'est peut-être une question d'accès au capital. Je vais mettre mon chapeau marxiste et je vais parler des moyens de production puis des moyens de propriété. C'est parce que ce sont les Anglais qui ont le capital. Et aussi, peut-être qu'on peut en déduire que c'est parce qu'il y a plus d'Anglais qui viennent s'installer, qui partent déjà avec plus de moyens versus les Français, les engagés qui venaient par contrat au début de la Nouvelle-France, qui, eux, venaient précisément parce qu'il n'y avait pas de moyens. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je trouve que on peut...
Moi, j'irais chercher bien moins loin que ça. Il y a une question d'expertise.
Ouais.
C'est juste de savoir comment le faire.
Exact.
Il y a une question de tradition qui peut se passer soit familialement ou tout simplement par compagnonnage. Là. C'est quand même un métier qu'on peut voir qui a été quand même le brasseur. Je sais pas, la période moyenâgeuse est quand même importante. Donc, tu as toutes les pratiques de compagnonnage. Fait que c'est pas une question... Volet capital, tout ça a un sens, mais t'as bien beau avoir les sous, faut savoir le faire. Puis ça, l'acquisition, il va encore une fois de liens, de milieux. Donc, tu parlais de nouveau britannique, là, t'as écossais qu'anglais, où ce que la connaissance brassicole était davantage diffusée. Donc, OK. Il y a peut-être d'autres, Luc, tu as peut-être d'autres points de vue là, par
mais,
rapport à ça.
Mais tu as raison, puis c'est multifacette. Je pense que, tu sais, si je décide de mettre ton chapeau marxiste, Pierre, je pense que tu as raison.
Oui, mais, j'ai converti quelqu'un.
Mais, je n'étais pas si dur à. C'est pas un sujet pour une autre discussion.
Un risque de dérapage assez important. Là,
c'est
ici.
Ça. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs facettes à cela. Il y a bien entendu l'histoire du capital, pour moi, c'est tout à fait vrai. L'histoire, en fait, je vais dire du public, de la clientèle. C'est une question de capital, mais c'est aussi une question de clientèle. Tu fais la meilleure bière du monde, un peu comme ce que Jean Talon se vantait de faire à la brasserie au tournant des années 1670, mais tu fais 2000 barriques de bière par année pour une population à Québec qui fait pas 600 personnes.
Et c'est là qu'il faut absolument qu'on s'arrête puis qu'on parle de Jean Talon, il est trop important. Son ambition était-elle démesurée? Rappelle-nous un peu c'est quoi le projet puis son unicité.
OK, mais là, il faut qu'on revienne à nos brasseurs anglais. Là, par
ouais,
exemple.
Mais au moins finir. OK, c'est okay,
PA, là, t'as
bon.
Raison. PA,
okay,
t'as
je retiens, je fais guide, pas du temps, mais guide des termes.
Okay, non, mais c'est correct. Je vais finir la parenthèse sur les brasseurs anglais, mais promis, on revient sur notre ami Jean Talon.
Ça marche.
Donc, mais Jean Talon, c'est ça, il brassait une bière qui, au dire de tous les gens qui y ont goûté, disait que c'était une bière de qualité qu'il brassait ici à Québec. Cependant, il n'y avait pas le marché pour la vendre. Donc, ça prend aussi le marché. Quand on revient en fait à ces gens-là, tu sais, plutôt dans notre entretien, je parlais des gens qui venaient ici pour essayer surtout là, de se créer un réseau commercial. Ben, il y a un peu ça aussi. Et parmi ce réseau commercial-là, la bière va être choisie. Oui, parce que je pense que ce serait pas honnête de diminuer l'impact, je vais dire, culturel de qu'est-ce que c'était la bière. Tu sais, je le mentionnais tantôt, en Nouvelle-France, le clergé catholique français en particulier avait donné mauvaise réputation à la bière. Cette mauvaise réputation-là n'existe pas dans les populations anglophones qui nous viennent d'Angleterre, d'Écosse ou même de Nouvelle-Angleterre. Oui, il y a des groupes pour qui on consomme moins de bière ou on n'en consomme pas, mais ça va être là. Et la deuxième chose qui va être très importante, et moi, je le sais que ça, je l'ai dit, puis j'ai eu une discussion une fois en présentant la conférence que je faisais sur l'histoire de la bière. Il y a un historien très connu ici dans la région de Québec qui me demandait de montrer c'était quoi mes chiffres puis est-ce que j'avais des statistiques. Je ne les ai pas, mais une chose pour moi est très claire, c'est que à partir de la fin du 18e siècle et surtout au début du 19e siècle, Québec notamment devient une ville de garnison militaire.
Ooh.
Et dans la, je vais dire, dans la paye du soldat britannique, il y a de l'argent pour de la bière. Et il y a, pendant un certain temps, aussi du rhum. Donc, ça les prend, ces boissons-là. Puis, si tu regardes un peu comment l'armée se gère, tu vas comprendre qu'à un moment donné, ça va peut-être être beaucoup plus rentable de brasser de la bière ici et de la vendre directement que d'importer de la bière de l'Angleterre pour la vendre à tes soldats. Et probablement que tu vas avoir tu auras moins de problèmes d'approvisionnement. Tu sais, donc le fait d'avoir des nouveaux, un bassin de buveurs qui existe, tu sais, les loyalistes vont être des buveurs de bière, les gens justement qui viennent de l'Angleterre, de l'Écosse vont être des buveurs. On a des gens qui connaissent ça. Je pense que c'est tout ça, là. Faut pas minimiser l'impact des gens qui connaissent ça, qui savent brasser de la bière, des gens qui ont la palette, le goût.
Ouais.
C'est-à-dire de la bière aussi. Et ça vient avec le capital. C'est global. Il faut mettre tout ça. Là.
Ouais.
C'est ça. Puis il y a un aspect qui est important, mais je ne sais pas si ça a été abordé dans d'autres podcasts, Pierre, mais c'est le principe de la mise en marché ou on voit vraiment la bière comme un produit à grande diffusion de masse qui. Les tablettes, nanana. C'est une vision très. On va dire. Début 1900 ou à la limite même 1950, mais tu sais, le principe britannique, l'armée fait des contrats, puis il y a des brasseries en Angleterre qui n'ont qu'un seul client qui est exemple l'armée ou un régiment X. C'est un peu sur ce principe-là. Ah,
oui,
donc, tu sais.
Des brasseries là, comme Burton, Bass sur Burton, je pense.
Ben, c'est un exemple quand même d'une très grande brasserie avec une diffusion, je ne vais pas dire mondiale, mais presque. On se remet à l'époque.
Ouais.
Mais je veux dire, dans bien des cas, une brasserie peut avoir un ou deux. Donc, c'est vraiment des bières à contrat qu'on va faire. On vient d'une époque de contract brewing. Donc, c'est pas tant un produit, je sais pas moi, une bière, mettons, un peu plus ancienne, de la Black Horse. C'est pas grave. C'est de telle brasserie, on fournit pour. On a un contrat X, on fait tel volume, that's it. Donc, c'est pas une affaire que tu retrouves en épicerie. Ça n'existe pas. Ou même les contrats sont directement avec un pub.
Ouais.
C'est pas des. Donc, c'est vraiment une façon différente de la mise en marché.
Ouais.
Donc, ça pour dire que une brasserie n'a pas besoin d'une clientèle. D'une clientèle. A besoin de gens qui aboient et qui apissent, mais n'a pas besoin de nombreux clients dans le sens de nouveaux contrats.
Ouais.
un, deux, trois contrats peut très bien faire vivre une brasserie. Donc, c'est la différence de des fois comme on perçoit les produits comme des produits qui sont standardisés, qui est un élément là, qui vient avec la qui est plus une consommation de masse. Là. On voit toutes les images vintage, là, un peu fin 1800, début 1900. Non, non, mais on est avant ça. Donc, tu sais, c'est quand même... C'est pas évident de se replacer dans ce mindset-là de comment le produit a été diffusé, comment il était véhiculé.
Tu sais, t'as pas besoin de convaincre des individus. Puis, tu sais, si on revient à notre...
Il n'y a pas de marque. Tu sais, l'idée d'un brand, d'un trademark, c'est bien que tu reviens avec Bass parce que Bass est le premier trademark mondial. Ouais. Donc, avant ça, avait même pas besoin d'avoir de nom. C'est même pas grave d'où ce qu'elle venait. C'est juste, comme tu dis, dans mon contrat, comme soldat, nanana, j'étais un artilleur, blablabla, j'ai de la bière, on m'en sert, that's it. Elle vient d'où, c'est quoi? C'est pas grave.
Exact.
C'est pas une préoccupation.
Ça, avec le vin même. Les marques, au niveau de l'alcool en général, ça arrive beaucoup plus tard. Puis étrangement, ça arrive un peu plus tard, on dirait, avec le vin dans la région de Bordeaux. C'est assez récent dans lequel on se dit, nous, on veut vraiment que notre vin soit connu pour sa marque. On ne veut pas que ça soit juste l'affaire d'intermédiaires qui vont mélanger ça avec d'autres vins pour couper dans leur perte.
Oui, oui.
Fin de la parenthèse de la.
Non, mais tu as raison de l'amener, puis c'est un peu la même chose, en fait. Il y a quelque chose de similaire qui se passe avec les brasseurs, parce que si tu prends dans la vallée du Saint-Laurent, on est au milieu du 19e siècle, et ça fait déjà peut-être 10, 20, 30, 40 ans que certains brasseurs dans les journaux s'affichent en disant que leur bière, c'est la meilleure. Mais à partir du milieu du 19e siècle, ce qu'on commence à voir, c'est des gens qui disent « exiger le seau sur le baril, tu sais, exiger mon seau à moi parce que ma bière à moi est meilleure. » Puis là, on sait qu'il y a des gens, des pas fins qui essaient de... qui sont des usurpateurs qui vont utiliser le nom. Par exemple, je pense à William Dow à Montréal qui commence justement à dire « exiger le seau Dow ». Puis cette volonté-là, en fait, du brasseur d'aller rejoindre directement le public, là, c'est dans cette deuxième moitié du 19e siècle-là qu'elle apparaît. Ça commence aux États-Unis. Là. C'est Anheuser-Busch qui, avec leur wagon réfrigéré, puis encore une fois, il y a une volonté là, de développer un marché qui n'est pas nécessairement celui seulement de la bière, mais du rail, du transport réfrigéré, qui, eux, vont se mettre à embouteiller vraiment un embouteillage de masse. Et avant ça, t'as pas le choix quasiment d'aller dans un débit de boisson ou de faire affaire avec quelqu'un, justement, un débit de boisson, un gros, disons, fournisseur qui avait un contrat avec un gros brasseur qui allait fournir des barils de bière, puis t'allais directement chercher ta bière-là, tu t'en ramenais pas des bouteilles chez vous.
Anheuser-Busch représente et même caractérise la transition du marché local au marché national avec son modèle d'affaires, son énorme succès, le fait que ce soit vraiment un baron de la bière comme il y a eu les barons du pétrole. C'est le premier baron de la bière, comme on peut le dire. Il y avait des familles qui sont devenues très riches avec des brasseries en Angleterre, à Londres notamment. À un moment donné, tu avais 5 grandes familles qui opéraient à eux seuls presque... la moitié, si on veut, des tavernes et tout, ils faisaient de l'argent, mais il n'y a personne qui a réussi jusqu'à cette époque-là à faire autant de fortune, à influer autant la politique d'un pays que Anheuser-Busch. Puis là, je reviens à la transition du marché dont on parlait. Anheuser-Busch avec ses fameux trains réfrigérés. Allô, allô, on a une fan qui vient nous dire bonjour ici, là. On lui lève notre verre. Coucou! Alors, c'est ça. Avec le wagon réfrigéré, avec la mise en vente de bouteilles, avec l'intention vraiment de sortir du marché local, on s'en va ailleurs. Je pense que Molson a joué ce rôle-là un peu au Canada. Puis ça, c'est une question que je vais te relancer. Certaines personnes pourraient trouver ça évidente, mais je me dis qu'il y a de la subtilité là-dedans qui mérite d'être analysée puis investiguée. Quel a été l'impact de Molson sur les autres brasseries de l'époque? Changement de paradigme?
Mon Dieu, c'est... Je me rappelle toujours dans mon livre d'histoire, sixième année, le premier bateau à vapeur au Canada. J'avais un échange avec un brasseur il n'y a pas longtemps, puis au niveau des réseaux, c'est très actuel là, de dire réseau de distribution de la bière, nanana. Puis je suis comme, by the way, te rappelles-tu que le premier bateau à moteur venait de Molson? C'était pas pour amener des touristes. Là. Bon, OK, peut-être qu'il y avait une couple de touristes sur le pont, là, mais ultimement, c'est développer un réseau de distribution. Tu parlais du train tantôt aux États-Unis, c'est la même chose. Fait que, tu sais, la question de faire un produit de qualité, c'est une chose, mais le fait de l'amener chez l'autre est davantage pertinent, là, pas davantage pertinent, mais davantage d'impact, là, de poids là-dedans.
Oui, puis je pense que... Donc ça, c'est le premier, je vais dire peut-être la première matérialisation de cet impact profond-là que Molson a pu avoir. Mais tu sais, je te dirais, l'industrie de la bière... Je vais dire du brassage industriel au Québec a changé du tout au tout il y a une année. Là. C'est facile, là. C'est facile de le dire. Là. C'est en 1909.
Ah, ça, j'aime ça.
Parce qu'en 1909, c'est la création du grand consortium National Breweries. Donc, qui regroupe là, une quinzaine de brasseries. Et à ce moment-là, on se regroupait parce qu'on voulait faire face à la compétition. Donc, on voulait faire face à la compétition qui venait d'où? D'Ontario, mais aussi et surtout des États-Unis. C'est les premiers balbutiements, en fait, de cette... On sent que ça s'en vient. On sent que ce marché-là est très fort. Mais il y a une compétition, entre autres, qui vient de l'Ontario et les brasseurs du Québec. Donc, et là, je pense à presque tout le monde, sauf Molson, vont décider de joindre à ce consortium-là. C'est DAO à Montréal.
C'est un consortium de brasseurs du Québec pour se protéger de la compétition en Ontario et en Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis.
Oui, exactement, qui s'appelle National Breweries, donc fondé, et là, tu vas avoir des gens de Boswell, ici à Québec, qui est le gros joueur régional. Tu as des gens de DAO à Montréal, qui est un énorme joueur régional pour eux aussi. Et on tend la main à Molson, qui pendant une seconde, tu sais, va se dire, ah, est-ce que je joins pas pour essayer de faire compétition et pour essayer justement de dire, on va être National Breweries, c'est nous qui allons contrôler le marché de la bière à travers la nation, à travers le Québec et l'Ontario aussi avec cette force-là. Molson décide de faire bande à part et Molson va réussir à compétitionner avantageusement National Breweries, tu sais, à tel point que en 1952, National Breweries va être intégré dans un autre consortium encore plus grand qui, cette fois-là, en fait, s'appelle Canadian Breweries. Et puis là, tu sais, on essaie de faire des procès pour, anti-monopole.
Concurrence.
Oui, c'est ça, concurrence déloyale.
Des lois antitrust.
Des lois antitrust pour essayer de dire qu'eux, ils sont rendus trop gros, trop forts. Mais Molson, pendant ce temps-là, grâce à des acquisitions qu'ils vont faire au courant du 20e siècle, notamment avec des partenaires, d'abord en Ontario, mais ils vont aller vers l'Ouest canadien, ils vont être capables, justement, d'envoyer leurs produits, entre autres par le rail, vers l'intérieur du Canada, mais pour pouvoir rester, si on veut, quasiment, là, je vais le dire, là, ça a l'air un peu dans le paysage de 2023 de dire ça, mais rester des brasseurs indépendants, tu sais, alors qu'on sait que Molson, aujourd'hui, fait partie d'un énorme consortium international, puis, tu sais, quelqu'un pourrait sourciller en disant ça, mais, tu sais, au contraire, c'était tout à fait vrai, c'était un brasseur indépendant qui n'était pas appuyé par un consortium. Donc, c'est majeur parce que c'est pour réagir à ce genre de joueurs-là que l'industrie de la bière, qui a eu des consolidations au courant du 20e siècle, c'est pour essayer de compétitionner avec ces gens-là qui avaient, comme Pierre-Antoine le disait, un énorme réseau de distribution solide, des partenaires solides un peu partout au Canada. Et donc, l'impact volontaire, je vais dire direct ou indirect de Molson là, sur l'industrie de la bière, c'est immense.
C'est intéressant la façon dont on en parle parce que tu fais vraiment sortir ici le jus de la géopolitique. On est dans des grandes économies, on est dans des grandes sommes, on est vraiment dans la concurrence d'un marché qui est de plus en plus tissé serré. C'est comme l'idée de s'aider mutuellement pour grandir ensemble devient à un moment donné littéralement l'exacerbation de la compétition.
Oui. Ben, mais tu sais, ces exemples-là, on les avait déjà. Là. Tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on s'aide, on va essayer de trouver des façons de... Tu sais, on va pouvoir se donner des trucs, mais en même temps, il y a toute notre approche de où est-ce qu'on se situe dans le marché capitaliste, là, si tu veux, là-dedans. Tu sais, au 19e siècle, je te rappellerai qu'ici même, à Québec, on avait les gros joueurs qui étaient la famille McCallum et la famille Boswell, qui, littéralement, si je me rappelle bien... Là, je sors la date un peu là, de ma poche arrière, là, mais c'est au début des années 1840 ou 50, ont littéralement acheté ce qui était le prochain compétiteur en lice, là, qui se trouvait être la troisième ou quatrième plus grosse brasserie de Québec, pour la fermer.
Wow!
Ils l'ont acheté pour la fermer, pour enlever littéralement un joueur du marché, là, un gros joueur du marché, pour garder plus de parts de marché pour eux. Donc, ça donne une idée, ce genre de pratique-là, c'est pas...
Ça joue fort.
C'est pas propre aux gros consortiums nationaux.
Oui, mais c'est le fun. C'est pas quelque chose qui est nouveau. T'sais, c'est le fun aussi de voir que c'est des pratiques commerciales slash, mais c'est qui sont pas nouvelles. Là. C'est le fun de s'imaginer ça en 1800 et quelques. Mais, tu sais, faut... Des fois, Des fois, c'est toujours la différence entre la nuance, des fois, entre capitalisme et économie de marché. Ouais. Tu sais, qu'il y a quand même une certaine variété. Il y a quand même, je pense, une différence, là, des fois, qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Tu sais, puis ce qui est intéressant dans l'exemple que Luc amène, c'est que des fois, la compétition, c'est pas tant d'être le meilleur, mais juste s'assurer que l'autre n'y soit pas. Puis là, moi, je me ramène dans mon quotidien de footbrasserie. On dit, ah, on a essayé d'entendre d'exclusivité. Non, c'est pas une entente d'exclusivité, c'est une entente d'exclusion. Le point, c'est s'assurer que l'autre n'y est pas. Parce, donc, alors, de, parce que pour moi, des fois, au niveau des brasseries, c'est qu'il y a un double discours. C'est que d'un côté, il y a des organisations, surtout multinationales, qui vont dire, bon, la compétition, la concurrence, non. Mais finalement, dans les pratiques au quotidien, c'est tout sauf la concurrence qu'on veut mettre en place. C'est surtout assurer qu'il n'y en a pas d'autres qui sont là. Donc, les grandes brasseries multinationales sont prêtes à payer très, très, très cher pour pas concurrencer. Donc, tu sais, on fait appel à l'économie de marché, mais on veut surtout la saboter en même temps. Donc,
c'est un vieux réflexe. On veut que les autres se soumettent aux lois, mais nous, on n'a pas besoin de
faire. On veut faire la promotion du libre-arbitre, du libre-marché, de la réalité que le consommateur a le choix, mais on veut surtout pas y donner l'occasion. Donc, c'est ça. Donc, on n'est pas à un... on n'est pas une contradiction près là, dans ces situations.
D'un coup, qu'il ne fasse pas le choix qu'on voudrait qu'il fasse.
Mettons qu'il ne vote pas du bon bord. Hein?
On aime plus le libre marché que le libre arbitre.
C'est ça. Mais tout ça, puis moi, pour nous ramener peut-être, je fais un bon aujourd'hui, mais c'est un élément que j'apprécie particulièrement de l'univers des microbrasseries, c'est que ultimement, l'amateur, le client, le fan ou quoi que ce soit, décide, prends ce qui te plaît, puis tout le monde est fine avec ça. Là.
Ouais.
Donc, il y a un certain retour, une certaine de véritable, de marché réellement davantage libre que davantage de crapaud, là, mais tu sais, qui est davantage grenouillassé, là, on va dire ça de même. Oui, désolé pour grenouillassé, là, vous avez compris. Là.
Moi, je dirais qu'il compte dans notre concours grenouillassé.
C'était quand même assez épique, là. ça mérite au moins un point là-dessus. Nous sommes en ce moment au Festival des brasseurs et des artisans de Québec et la réalité semble confirmer ce que tu dis parce que devant nous, on a une tente dans laquelle les brasseurs sont côte à côte, se parlent, s'échangent des verres, s'entraident. Il y a encore de l'espoir pour les coop, pour la coopération et pour un peu de social dans notre capitale. Messieurs, mot de la fin, quels sont les projets que vos consommateurs et amis devraient savoir de vous? Je commence avec toi, Luc.
Ben c'est ça, c'est de garder l'œil ouvert. J'ai pas de promesse de date, mais comme on disait en début d'entretien, là, il y a un petit livre qui, on espère, devrait voir le jour, je vais dire d'ici 2030. Mais non, je fais des blagues, j'exagère, j'espère beaucoup plus rapidement que ça, mais là, il va falloir on mette l'épaule à la roue, puis ça s'en vient bien. Donc, pour parler justement de l'histoire de ces grands brasseurs industriels-là, de mettre l'accent justement sur le rôle de ces brasseurs-là, qu'est-ce que la bière a pu... comment on peut utiliser la bière pour comprendre, je vais dire, le développement économique de la vallée du Saint-Laurent un petit peu. Je pense que c'est un beau clin d'œil. Ça va bien s'accompagner de la bière à votre choix, mais je dirais que c'est ça qui s'en vient. Fait qu'on va garder je garde les yeux ouverts en même temps. Mais tu sais, puis heureusement, pour moi, c'est comme facile parce que ma période historique est terminée. Hein. Fait qu'après 1989, où je vais dire la brasserie artisanale puis la microbrasserie va commencer, grosso modo, à revenir tranquillement pas vite sur la scène du Québec. C'est moins là, la partie qui m'intéresse. Fait que je laisse les gens... J'adore observer cette industrie-là de mon perchoir d'historien. Fait que oui, c'est ça qui s'en vient.
T'es un gars du 19e siècle.
Écoute, bon, là tu me fais une parenthèse. Là, tu m'ouvres une porte. Mais oui, je suis un gars du 19e siècle parce que c'est notre société québécoise, canadienne, de la ville de Québec, de la ville d'où vous venez. Là. Regardez autour de vous, là. Les villes ont été dessinées, ont grandi au 19e siècle. Nos façons d'être, nos façons de faire, ce côté très français, mais en même temps très nord-américain qu'on a un peu tous en dedans de nous autres, puis qui chicane, puis qui n'est pas toujours à l'aise, puis que des fois, il prend sa place. La relation qu'on a avec, justement, la campagne, les traditions, l'histoire, tout ça, là, c'est beaucoup le 19e siècle qui nous les a donnés. Fait que, ouais, je suis obligé de dire que j'étais un gars. En tant qu'historien, le 19e siècle, ça me parle beaucoup.
Mes suspicions sont confirmées. PA? Qu'est-ce qu'on doit savoir de votre microbrasserie? Qu'est-ce qui se passe de bon cette année chez vous?
Toute qu'une année pour nous, 2023, c'est notre 10e anniversaire. C'est vraiment génial. Hey! Merci. Peu d'artifice. Donc on a fait plein de trucs le fun. On a fait une. On s'est engagé dans le fond à faire on a fait des collaborations avec chacune des brasseries de la Côte-Nord et du Labrador. On est même allé brasser avec Iron Rock, Labrador City. Ça a été vraiment chouette. Je ne suis pas sûr, les collabos interprovinciales sont fréquentes au Québec, mais c'était vraiment chouette. C'était vraiment une belle rencontre. Donc on a fait ça tout le long de l'année. On a commencé en janvier avec la gang au Labrador, les festivités. Et tout ça va clôturer dans quelques semaines, le 25 août prochain. On fête notre 10e anniversaire au pub, un show, une bière justement avec la gang de microbrasserie La Mouche. Donc au lieu de brasser notre bière anniversaire, nous on s'est fait brasser notre cadeau de fête. On est vraiment contents.
C'est comme ça que ça devrait marcher, tu sais.
Pourquoi c'est pas comme ça? Ça devrait être la norme.
C'est votre fête, là. Voilà, tout le monde devrait vous donner des cadeaux.
Voilà, donc on est super contents. Belle collaboration avec La Mouche de Natashquan. Bien hâte de partager ça. Et puis après ça, super content d'orientation, de la trajectoire que les choses que la brasserie prend. Puis on continue là-dessus.
Quelques festivals de la bière, vous allez être présent en 2023 encore?
Nous, c'est notre troisième événement dans la région de Québec de l'été. Après avoir fait la commission brassicole en juin, la secousse organisée par la gang de la Fosse à Donnacona en juillet. Ici, Festival Artisan Brasseur est notre conclusion. Sinon, pour le restant de l'année, on va surtout être dans notre région d'amour. On va surtout être quelque part entre Tadoussac et Blanc-Sablon. Sinon, c'est entre Anticosti et Shefferville que vous allez nous retrouver. Donc, bienvenue sur la Côte-Nord.
Et bienvenue sur le temps d'une bière, un balado sur l'histoire et surtout les gens et qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur verre et dans leur gosier. Un balado que vous pouvez trouver sur Google Podcast, sur Spotify, sur YouTube, un peu partout. On a un site internet, on a des beaux articles et récemment, on a lancé une belle série d'articles sur la prohibition. Donc, l'histoire de la prohibition au Québec et aux États-Unis, qui était Conrad Labelle, notre Al Capone national. Personnage hors nature et hors normes, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, ça a été un grand plaisir de vous avoir avec moi pour le temps d'une bière. Un gros merci.
Au plaisir.
Merci, Pierre.
Merci à vous. Et pour nos abonnés, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le temps de s'abonner. Et on se revoit plus tard. Ciao!